penses que j'arrive?
Non, mais c'est vrai que la notion de bonheur, en fait, on peut épiloguer, enfin discuter, c'est une notion philosophique très compliquée. Et moi, je suis historien, donc j'ai rien à en dire. Mais ce qui m'intéresse, c'est que, c'est une construction, la notion de bonheur. C'est vraiment ça qui est intéressant. C'est-à-dire, c'est une construction qui est connectée à plein d'autres phénomènes. Et moi, j'aurais envie de politiser cette notion de bonheur en essayant de montrer quelles sont ses fonctions. Ce qu'on dit toujours, c'est un discours, c'est une idéologie, c'est quelque chose qui est véhiculé par des médias, des médiums, des formes de discours dans l'espace public. Et donc, à quoi ça sert? Quelle est la fonction? Et donc, ça sert à faire fonctionner la machine. La machine économique, disons les choses simplement. La quête du bonheur est une invention du 19e siècle, du 18e, du 19e siècle, qui accompagne l'idée que le bonheur, c'est quelque chose qu'on peut conquérir. Alors qu'avant, la question ne se posait pas. Le bonheur, c'est quelque chose qu'on peut conquérir dans l'avenir grâce à un certain nombre d'améliorations matérielles, grâce au commerce, grâce au libre-échange, grâce à je sais pas quoi, grâce à la mondialisation, etc. Donc le bonheur, dans ce sens, on peut le considérer comme une sorte de mot d'ordre qui accompagne des transformations réelles.
Et ces transformations, elles sont au cœur de votre livre technocritique dont on va parler juste après les infos.
Europe 1 Social Club, Frédéric Taddeï.
Nous sommes jusqu'à 22h30 avec Diana Ratta et Marie Piedelièvre. Elles jouent au théâtre Darius Milhaud dans le 19e jusqu'au 5 mai, tous les lundis à 21h, seules ensemble, une pièce qu'elles ont écrite et mise en scène et qui est déconseillée aux moins de 12 ans. Avec André Guigaud qui publie Pour en finir avec le bonheur aux éditions Bayard, avec Ilan Duran-Cohen, L'homme à débattre, son nouveau roman chez Actes Sud, et avec François Jarige, l'auteur de Technocritique, du refus des machines et la contestation des technosciences. Ça vient de paraître à La Découverte. François Jarige, vous êtes donc historien, technocritique, c'est un livre d'histoire sur la critique, mais aussi la contestation, la résistance aux technologies, aux technosciences, aux machines, aux progrès, et ça ne date pas d'hier.
Tout à fait. Ça ne date pas d'hier. Donc le sujet du livre, c'est les débats qui ont accompagné la technique. Alors en fait, bon, pour dire simplement, j'ai essayé de faire de la technique, parce qu'en fait le mot technique ne veut rien dire. On pourra en parler si vous voulez.
Oui, ça dépend des époques au fond. Hein.
Non, ça dépend des époques, et il faut bien voir que le mot technique, comme le mot bonheur, ce sont des mots qui s'inventent historiquement. C'est-à-dire qu'avant le 19e siècle, le mot technique, ça voulait rien dire. Le mot technique, ça voulait dire au contraire des choses très différentes. Hein. Tout art de faire était une forme de technique. Il y avait des techniques du chant, il y avait des techniques de la danse.
Aujourd'hui, on dit à un danseur qu'il a de la technique.
Mais la définition de la technique comme un ensemble d'artefacts qui médiatisent notre rapport au monde, parce que c'est ça la technique au fond.
Ou qui mécanise.
Oui, mais le mécaniser, c'est une manière de le médiatiser. Bon, donc la technique, tous les mots que vous avez employés, machine, technologie, technique, tous ces mots ont une histoire. Et le langage sert évidemment toujours de barrière à la compréhension du passé, parce que les acteurs du passé avaient d'autres langages pour s'exprimer. Donc ce livre, c'est pas seulement une histoire. Donc c'est une histoire de la critique, de la contestation, des résistances qui se sont exprimées contre les systèmes techniques, les dispositifs techniques de chaque époque depuis la fin du XVIIIe siècle. C'est une synthèse d'histoire.
Oh, même avant, vous remontez bien avant.
J'essaye de
l'antiquité aussi.
Oui, mais très rapidement, j'essaye de mettre en perspective les situations antérieures pour comprendre ce qui se met en place de singulier dans les sociétés industrielles du XIXe et du XXe siècle. Donc le livre est centré quand même sur l'époque contemporaine, parce que précisément dans les sociétés antérieures au monde industriel, la notion de technique en soi n'avait pas vraiment de sens. Et l'idée de résister ou de s'opposer à la technique n'avait pas réellement de sens parce que la technique n'était pas non plus considérée comme le moteur du progrès ou comme quelque chose qui permettrait le bonheur, justement.
Et alors justement, c'est là où ils sont intéressants. Mais avant, je voulais revenir sur le fait, au fond, cette résistance, cette critique, cette contestation de la technologie, de la technoscience, on pense que c'est aujourd'hui. On pense qu'avant, on fait ça, remonter ça grosso modo à 30 ans. On se dit au fond, avant les années 70, tout allait très bien, tout le monde pensait que le progrès c'était formidable, le progrès technique j'entends, et que c'est seulement ces dernières années qu'on se serait mis à en avoir peur. Ce que vous montrez, c'est qu'au fond il n'en est rien, ça a toujours accompagné, tout progrès technique a été accompagné de sa critique, mais au fond on l'a oublié, et à chaque fois ceux qui se plaignent, ceux qui contestent, on leur dit qu'ils sont archaïques, qu'ils sont réactionnaires.
Alors on l'a oublié consciemment, ou plutôt on l'a pas oublié, on l'a marginalisé, on a construit un récit historique de l'archaïsme et de la barbarie, on a renvoyé ses opposants du passé à la stupidité, à l'ignorance. Ce qui est intéressant, c'est un livre d'histoire sociale, culturelle, qui est un peu ennuyeux, hein. C'est un vrai livre d'histoire où j'essaye de...
C'est gentil.
Mais je veux dire, j'essaye de sauver, comme disait un historien anglais des années 60 qui s'appelait Hippie Thompson, j'essaye de sauver les acteurs du passé de l'immense condescendance de la postérité, en comprenant leur raison d'agir. Et donc j'essaye de repolitiser l'histoire des techniques. Les techniques sont souvent étudiées soit par des ingénieurs, soit par des approches techniciennes. Et souvent la technique n'est jamais pensée comme un phénomène social et politique, c'est-à-dire comme l'enjeu d'une controverse sur ce qui fait le bien commun, sur ce qui définit les rapports sociaux, etc. Et donc j'essaye de penser la technique des deux derniers siècles à travers les multiples controverses qu'elle a suscitées. Donc il s'agit jamais de s'opposer à la technique, ce qui ne veut rien dire. Il s'agit de s'opposer à des trajectoires techniques.
Juste pour préciser votre pensée, en tout cas celle que j'ai cru comprendre dans le livre, ces contestataires ne se prononcent pas contre la technique ou contre le progrès, ils sont en faveur de la préservation de leur travail, de la qualité de leur travail, de leur environnement, de leur mode de vie, au fond de leur bonheur, pour en revenir au bonheur.
En tout cas de leur dignité. Mais il y a plein de raisons pour lesquelles on peut critiquer les techniques. À chaque époque. Et souvent ces raisons, après coup, quand une trajectoire s'est imposée, ces raisons deviennent invisibles. Parce qu'une trajectoire s'est imposée, et ça c'est particulier, on a toujours l'impression, nous, là, contemporains du début du XXIe siècle, d'être au sommet de l'évolution, et d'être le résultat naturel d'un progrès continu, linéaire et inéluctable. Et donc, tout ce qui était avant était destiné à être dépassé par nous-mêmes. L'enjeu, c'est au contraire de retrouver des alternatives oubliées, de retrouver des manières de penser différentes. Donc il ne s'agit pas seulement de critiquer la technique, il s'agit de voir qu'à chaque moment historique, la technique est indéterminée. Elle est l'enjeu de conflits, de définitions contradictoires. Et il faut retrouver ces définitions contradictoires. Et alors, voilà. Et donc c'est ce que j'ai essayé de faire. C'est essayer de redonner des raisons à la critique.
Avant l'industrialisation, avant le 19e siècle dont vous parliez, François Jarige, le progrès technique n'était pas forcément considéré comme un progrès. Et c'est ça qui m'a semblé le plus intéressant, que l'on remonte à l'Antiquité, que l'on regarde le Moyen-Âge, que l'on pense au clergé ou à l'aristocratie qui se sont beaucoup opposés, notamment pendant le Moyen-Âge et pour des raisons différentes parfois, certains progrès techniques.
Oui, ce qu'il faut déjà dire d'emblée... c'est que il y a pas d'un côté un monde de la stabilité et d'un autre côté un monde du progrès qui se mettra en marche. Il y a eu des changements techniques depuis l'Antiquité. Il y en a eu énormément. L'Église a été la principale source de changements techniques au Moyen Âge.
Effectivement. Les techniques... Et en même temps, elle en a combattu un certain nombre.
Oui, mais pas tant que ça. Les techniques hydrauliques. Mais la question de résister au progrès technique ne se posait pas, puisque le progrès technique n'existait pas. Déjà, c'était des mondes dans lesquels le progrès n'existait pas. On considérait plutôt le temps comme un déclin, comme la perte d'un âge d'or disparu. L'idée que le monde va vers du mieux se met en place entre le 18e et le 19e siècle, et l'idée que ce mieux se définira par plus de techniques, ça se met en place très tardivement au milieu du 19e siècle. Donc vous avez raison de dire que cette idée-là, elle a toujours été contestée. Elle a été contestée pour plein de raisons différentes. Je peux pas résumer ça en deux mots maintenant, mais elle a été contestée à la fois par des écrivains, par des auteurs, et pas seulement par des auteurs d'extrême droite, parce que ce que vous disiez tout à l'heure, c'est juste. C'est-à-dire que la critique du progrès technique est associée souvent à une sorte de position réactionnaire et conservatrice.
Je pense à Heidegger.
On parle tout le temps à Heidegger. Je consacre une demi-page à Heidegger parce qu'il faut bien, en effet, c'est un personnage important. Mais
sur 400, c'est pas énorme.
C'est pas énorme du tout. Mais je suis pas compétent. Il y a beaucoup de spécialistes de Heidegger qui pourraient en parler. Mais ce qui est très intéressant, c'est que Heidegger s'inscrit dans un contexte.
De la révolution sociale conservatrice allemande.
Oui, mais à la même époque, il y a Orwell. Qui a des pages magnifiques sur la critique du machinisme industriel. Il y a Simone Veil qui a des pages tout à fait magnifiques. Il y a toute une série d'écrivains. Il y a toute une série d'acteurs. Et l'autre originalité du livre, ce que je veux souligner, c'est que c'est pas une histoire intellectuelle de la critique du progrès, comme il y en a un certain nombre qui partiraient de Rousseau pour aller jusqu'à Heidegger. C'est une histoire sociale. C'est-à-dire, j'ai essayé de m'intéresser aux mondes sociaux dans leur diversité. Y compris au monde paysan. Qu'on recouvre d'une immense condescendance et d'un immense mépris quand même depuis les années 60. Mais évidemment, parce qu'il s'exprime pas, il s'exprime peu. Mais donc j'ai essayé de comprendre aussi un certain nombre d'actions, par exemple des émeutes contre tel ou tel procédé, des discours qui essayer de comprendre leur rationalité. Souvent la critique de certains systèmes techniques, elle est très légitime parce que les techniques, souvent au début, elles ne marchent pas. Et il y a plusieurs techniques en compétition en fait. Et s'opposer à une technique, ça veut pas s'opposer au progrès technique, ça veut dire s'opposer à ce système technique qui est considéré comme injuste, comme manifestant des rapports de pouvoir capitaliste ou dominateur, au profit d'autres techniques qui sont elles considérées comme plus émancipatrices.
On va s'intéresser à ce que l'on a pu critiquer dans la technique juste après ça.
Europe 1 Social Club, 21h-22h30, Frédéric Taddeï. I walk in the city, see people
dealing with this reality. As animals sur Europe 1, c'était Burn Like a Fire.
Europe 1 Social Club,
21h-22h30, Frédéric Taddeï.
Toujours avec François Jarige pour son technocritique du refus des machines à la contestation des technosciences qui est paru à la découverte. Alors dans la critique des techniques qui a pu y avoir au XXe siècle, hein, puisque vous le dites bien, la fracture c'est le XVIIIe, puis le XIXe c'est là où ça devient véritablement, où on entre dans l'âge du progrès technique. Mais au XXe, beaucoup de gens se sont élevés contre la technique et pas seulement des ouvriers qui allaient perdre leur travail, aussi des intellectuels, des savants qui maîtrisaient cette technique. Et une des critiques qu'on a fait à la technique, justement, c'est, au fond, c'est que la perte de qualité, mais pas seulement de la qualité de la vie, mais aussi de la qualité du travail. La technique travaille moins bien que l'homme.
Alors ça, c'est un débat. Bon, c'est un débat très très ancien. La question, c'est la question de la déqualification. Il y a un débat très très central là, qui se pose en fait dès le début du 19e siècle. C'est-à-dire la question de la division du travail qui prépare la mécanisation du travail. Cette effet de la mécanisation du travail sur la qualité du travail, sur la question du savoir-faire. En réalité, il y a deux, on pourrait dire, il y a deux types de techniques qui s'affrontent historiquement pour vraiment schématiser à très grands traits. Il y a une technique qui vise à produire, à accroître la productivité pour permettre de produire en masse, au maximum, au meilleur coût possible pour inonder le marché de marchandises.
Mais aussi pour que tout le monde en profite, ne soyez pas injuste.
Et pour que tout le monde en profite, sans doute. Et il y a une deuxième technique hein, qui vise à améliorer la qualité des produits, qui vise à densifier le travail, qui vise et donc il y a toujours eu ces embranchements historiques. Il y a toujours eu ces embranchements historiques. Et donc la lutte, elle se fait à chaque fois sur ces enjeux-là. Par exemple, après 1945, il y a un grand débat aux États-Unis autour de l'automatisation du travail. À quoi sert l'automatisation du travail ? Est-ce que ça sert à améliorer la productivité pour permettre justement d'accroître le bonheur collectif en permettant de fournir à tout le monde plus de produits qui permettront de jouir
pour le faire simple, la forté parce que c'était
Encore avant.
Ça permettait à baisser les coûts de la voiture et de pouvoir espérer que tout le monde allait pouvoir s'en offrir une.
Oui, mais pour permettre, alors voilà. Mais alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a toute une série de sociologues américains qui ont montré que l'automatisation du travail après 1945, donc après la Forte, hein, puisque c'est plutôt l'entre-deux-guerres, l'automatisation du travail, c'était d'abord une lutte politique. Il s'agissait en fait d'affaiblir le poids des syndicats en transformant la main-d'œuvre. Et ça, c'est un truc récurrent depuis le début du 19e siècle. Des trajectoires techniques visent. Il y a plein de manières d'améliorer la productivité, d'améliorer la quantité produite. Et la question, c'est de savoir aussi qu'est-ce qu'on produit. Il y a des produits qui peuvent durer un siècle et d'autres qui peuvent durer cinq ans. Bon, on va pas rentrer dans ce débat-là. Mais la question, c'est de savoir à quoi servent les techniques. Or, les techniques, historiquement, elles servent aussi à des enjeux de pouvoir.
Elles affaiblir. Elles imposent l'efficacité, elles imposent la croissance.
Oui, mais elles permettent de substituer une main-d'œuvre à une autre. Hein. Au 19e siècle, les techniques servent souvent à remplacer des travailleurs qualifiés par des ouvriers et des femmes. Non qualifiés et payés 50% de moins. Au 20e siècle, il y a plein d'exemples dans l'industrie de techniques qui servent d'abord, à affaiblir le poids des syndicats. Qui servent d'abord à permettre de substituer une main-d'œuvre immigrée. Les femmes, les immigrés et les enfants sont, à cet égard, dans l'histoire du progrès technique industriel, des formidables instruments pour encourager, pour stimuler le progrès technique. Parce que les techniques permettent aussi, en déqualifiant, d'employer une main-d'œuvre qui contrôle pas les processus de production.
Donc, et jusqu'à là, ne pouvait pas travailler, donc.
Mais si, il pouvait travailler. Mais comment ça, il pouvait pas travailler ?
Non, je vous pose la question. C'est l'argument, c'est que la technique permet de faire travailler des gens qui n'ont pas forcément les qualifications, donc de leur donner du travail. Et c'est un des arguments en faveur de la technique.
Non, alors, l'argument, c'est-à-dire de donner du travail. Ben non, puisque là, ça c'est le vieux débat sur le chômage technologique. Est-ce que le technique, alors bon, on va rentrer un petit peu dans le débat. Ça c'est un débat structurel. La technique crée-t-elle du chômage ou crée-t-elle plus d'emplois? Alors l'un des principales critiques des techniques industrielles au début du 19e siècle, c'est qu'elle allait supprimer des emplois et rendre obsolète un certain nombre d'ouvriers, de travailleurs. Ce qui est effectivement vrai. Mais en permettant d'accroître la quantité de marchandises produites, elle permet de développer d'autres secteurs d'activité et donc d'embaucher ses salariés. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce que les économistes appellent le déversement. Le gros problème, c'est que ce déversement, il s'accompagne de souffrances sociales, il s'accompagne de toute une série de problèmes d'ajustement qui souvent sont rendus invisibles. Et puisqu'on en est là, justement, l'un des enjeux du débat actuel aujourd'hui, c'est que le chômage structurel de masse qu'on connaît dans nos sociétés industrielles, est-il lié au changement technique ou pas? Ça, il y a un débat qui est très actuel et qui est très important. Il y a toute une série d'économistes aujourd'hui qui dit que les nouvelles stratégies, les nouvelles trajectoires techniques qui se mettent en place avec l'internet, le numérique et les nouvelles formes d'automatisation vont créer du chômage de masse. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une période de crise où il y aurait 10% de chômeurs. C'est un élément structurel de la nouvelle économie qui est en train de se mettre en place. C'est-à-dire qu'il va y avoir on est en train de rendre une grande partie des travailleurs obsolètes. Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est que c'est plus seulement les travailleurs manuels, parce que l'argument de la technique, c'est que ça remplaçait les travaux difficiles, les travaux musculaires, pour faire de l'homme une pure intelligence. Ça, c'est la grande utopie de la mécanisation du 19e siècle. On va supprimer toutes les tâches difficiles, sachant de savoir comment on définit une tâche difficile, comment on définit une tâche aliénante et une tâche digne, bon, enfin, c'est un débat, pour remplacer tous les humains pour en faire des espèces de pure intelligence, qui seront les maîtres des machines. Les machines feront le travail difficile, le travail sale, et les humains deviendront tous des ingénieurs contrôle qui maîtriseront les processus de production. Et c'est là ce que un certain nombre d'économistes, notamment deux économistes américains qui viennent de sortir un livre très intéressant qui s'appelle Le deuxième âge des machines, ils disent que aujourd'hui on est entré dans une nouvelle trajectoire qui va mécaniser, pour le dire rapidement, les tâches de contrôle elles-mêmes. C'est-à-dire que les journalistes vont devenir inutiles, les traducteurs vont devenir inutiles parce que les fonctions cognitives qui auparavant étaient considérées comme le propre de l'homme vont pouvoir elles-mêmes être remplacées. Alors là, il y a deux alternatives. Soit on rentre dans une société d'abondance où on n'aura plus qu'à travailler 3 heures puisque toutes les machines feront tout le reste. Alors c'est un certain nombre d'acteurs disent bah c'est super, on va créer un revenu d'existence pour tous et puis les machines feront le travail et là sera réalisée la vieille utopie. Et alors ça, c'est une manière positive de voir les choses. Il y a une autre manière de voir les choses, c'est de considérer que l'homme devient obsolète. Et donc, il faut redéfinir ce qu'est le travail. Et est-ce que le travail, c'est qu'une contrainte, ou est-ce que le travail, c'est pas une manière quand même aussi de s'émanciper, d'avoir un rapport digne aux autres? Et alors, on peut se demander dans ce cas-là si mais là, j'ai peur de m'étendre un peu trop, mais en gros, donc c'est la question quand même centrale. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire dans le futur? Est-ce qu'on va être dans une société où il y aura plus besoin de travailleurs? Et ça, c'est l'idéal de tous ceux qui veulent accroître en permanence la productivité. C'est quoi, au fond, la productivité et la compétition pour la productivité que se livrent les pays industrialisés du monde? C'est de faire disparaître tous les travailleurs. Avec cette idée que le travail est nécessairement aliénant. L'objectif pourrait être d'inventer des techniques qui permettent un travail digne, tout simplement.
Est-ce que ça n'est pas le cas de la technique en général? Et depuis qu'on célèbre le progrès technique, son corollaire, c'est qu'elle remet en cause l'ordre du monde. Elle hypothèque l'avenir. Oui. Mais simplement parce qu'elle le modifie.
Oui, mais justement, la question, c'est pas de savoir la technique modifie l'ordre du monde. Il y a la question de savoir quel ordre du monde on construit avec quelle technique. Et à chaque époque, il y a différents types de techniques. Il y a beaucoup de théoriciens des techniques qui ont essayé de penser les deux techniques. Ce que Ivan Illich appelait les technologies hétéronomes et les technologies autonomes. Celles qui permettent aux individus d'être plus autonomes et celles qui rendent les individus inutiles. Lewis Mumford. Il y a plein de théoriciens qui ont essayé de définir ce que serait une technologie émancipatrice et une technologie qui ne voudrait pas rendre les individus inutiles. Et donc ça, c'est une vraie question. Et on voit bien que la technique, c'est pas être contre ou pour la technique. La question, c'est de savoir modeler les trajectoires techniques du futur. Parce qu'en réalité, on croit toujours que la technique, elle est neutre, elle est là, elle nous est offerte. Mais la technique, elle est produite. Elle est produite par qui? Elle est produite par des rapports de force, par des entreprises, par des intérêts et des rapports de domination.
Donc, et aussi par le fait qu'on a l'impression, à tort ou à raison, d'en profiter.
Mais oui, bien sûr. Mais parce que justement, la technique rentre magnifiquement en concordance avec l'idéologie du bonheur. Et l'idéologie du bonheur, employant cette expression, qui se reconfigure sans cesse depuis 150 ans. Et ce que vous décriviez avec le culte de la performance, de l'excellence, la forme contemporaine et dernière de l'idéologie du bonheur, elle est parfaitement en phase avec ce que d'autres appellent le néolibéralisme. C'est-à-dire les nouvelles logiques de concurrence qui se mettent en place à la fin du XXe siècle. Donc il y aurait une idéologie du bonheur qui serait parallèle aux reconfigurations des théories du libéralisme.
Avec en résistance.
Oui, je vous en prie, André Guigo.
Avec en résistance depuis toujours. Moi, je pense à l'écrivain américain Thoreau, hein, qui essayait de penser de David Henry Thoreau.
Ah oui, j'ai dit Gustave.
Qui essayait de penser en fait dans Walden, par exemple, un retour à la nature qui ne serait pas uniquement inféodé à la domination de la nature par la technique. Voilà.
Mais Thoreau, c'est un exemple intéressant parce que Thoreau était un fils d'industriel et c'est pas quelqu'un qui s'opposait à la technique.
Non, mais c'est au nom d'une certaine idée du bonheur qui n'est pas celle du bonheur dominant aujourd'hui.
Mais quand on lit votre livre Technocritique, François Jarige, on se dit bon, ok, toutes ces critiques ont toujours existé. Ce n'est pas nouveau, alors qu'on pourrait parfois croire que ça date d'il y a une trentaine d'années et qu'on s'est aperçu tout à coup que au fond, notre terre allait s'abîmer, se dégrader. Non, en fait, toutes ces critiques ont toujours existé, mais en même temps, par la même occasion, avec ce livre, vous avez réussi à nous montrer qu'elles n'ont servi à rien. Et donc, on peut en conclure que le progrès est inéluctable et qu'il apporte à chaque fois dans ses bagages son lot de pertes et de profits. C'est normal, il change le monde, parfois on y gagne, parfois on y perd en qualité, mais on peut y gagner en quantité, etc., etc. Et tout cela, vous en parlez très bien dans le livre. Alors, mais au fond, vous vous dites, ben voilà, ok, ces critiques ont toujours existé, elles existeront toujours, et le progrès fera son chemin.
Magnifique. Mais c'est pas tout à fait ce que je dis.
Alors non, j'ai pas dit que vous le disiez, je dis que c'était l'impression que le lecteur peut en tirer.
Non, mais c'est pas tout à fait ce que je dis. Je dis pas que les critiques ont toujours existé. Je dis elles ont toujours existé, mais avec des phases d'intensité très variables. Il y a eu des périodes de cadrage modernisateur, pour le dire vite, très fort, entre, notamment après 1945, où là, la critique existait, mais était résorbée de façon caricaturale. Depuis une trentaine d'années, il se passe effectivement une réflexivité, pour le dire avec un mot un peu savant, pompeux. Il y a une réflexivité, c'est-à-dire une conscience des conséquences qui s'accroît considérablement. C'est-à-dire qu'on est dans une phase technocritique particulièrement intense. Alors quand vous dites que ça ne sert à rien, là, évidemment, c'est un jugement rétrospectif facile. Je crois que toutes ces critiques ont en permanence modelé. Peut-être que ça aurait été pire s'il n'y avait pas eu les technocritiques. Ça pourrait être une réponse à votre remarque. Donc depuis 30 ans, par contre, il y a une intensification de la critique pour plein de raisons. Parce que des critiques qui étaient disjointes se retrouvent. Parce qu'il y a un constat. Et ça, on peut...
Oui, social, moral et environnemental,
voilà.
Au fond.
Et ce constat, même les apologues du progrès technique, les cornucopiens, vous connaissez ce mot cornucopien, c'est un terme qui a été inventé par un Américain dans les années 70 pour désigner ceux qui pensent que les sociétés humaines s'amélioreront de façon continue et inéluctable grâce au progrès technique. Les cornucopiens, ça, c'est des idéologues, et il y en a beaucoup. Mais même les cornucopiens sont obligés de reconnaître aujourd'hui que les trajectoires, non pas la technique, mais les trajectoires techniques industrielles fondées sur l'énergie fossile et sur le gigantisme, ces trajectoires techniques aboutissent à des impasses. Et ça, tout le monde le constate. Et ça qui est intéressant. Tout monde
des impasses, vous exagérez un peu. En tout cas, qu'elles suscitent des problèmes à la fois moraux, sociaux et environnementaux.
Oui, mais elles aboutissent à des impasses qui apparaissent par exemple dans les phénomènes de contre-productivité. De contre-productivité qu'on observe dans la grande agriculture chimique et modernisée. C'est-à-dire les rendements phénoménaux de l'après-1945 décroissent. Depuis les années 80.
François Jarige, on peut nourrir aujourd'hui 7 milliards d'individus,
mais je dis pas
avec
que
3% de la population qui se consacre à l'agriculture.
Mais je ne nie pas qu'il y a, je viens de dire qu'il y a eu un accroissement des rendements considérable. Mais cet accroissement des rendements considérable, il est absurde de considérer qu'ils peuvent s'opérer de façon continue à ce rythme-là dans le futur. Et les agronomes le remarquent, il y a des décroissances dans les rendements. Il y a des effets de contre-productivité, il y a des effets de seuil au gigantisme technique. Quand il y aura des milliers de centrales nucléaires dans le monde, il y aura des limites. Et ça, c'est pas des limites morales ou des limites, c'est des limites physiques. Il y a des limites physiques aux énergies fossiles qui servent de substrat aux trajectoires techniques qu'on a choisies il y a 150 ans. Et il y a des limites aussi physiques aux problèmes de pollution, de retraitement, des déchets gigantesques, etc. Donc il y a effectivement des impasses qui sont objectives là et qu'on peut objectiver et que tout le monde objective, y compris dans le monde scientifique.
Un mot très court, André.
Oui, je voulais simplement ajouter un mot. En fait, on a changé le paradigme de la responsabilité. Avant, être responsable, c'était devoir être responsable de son passé ou du passé des autres. Et pour la première fois depuis Jonas, en fait, eh bien, être responsable, c'est être responsable pour des gens qui n'existent pas encore, c'est-à-dire nos enfants et ceux qui vont nous suivre. Et je crois que c'est dans ce sens-là qu'on va être raisonnablement optimiste. Voilà.
Un mot, Marie-Pied de Lièvre. Vous avez peur de la technique ou...
Non, c'est vrai que ça commence à devenir un petit peu complexe pour moi. C'est pas grave. Mais effectivement, on n'a pas encore beaucoup vécu. Du coup, ce développement de technologie et de technique, on l'a pas vraiment ressenti.
Enfin,
donc c'est un peu compliqué de juger. Après, j'espère que artistiquement, on sera jamais remplacé par des machines et au théâtre. Et
il y a trois domaines, c'est l'amour, l'art et une forme de spiritualité qui seront pas remplaçables par la technique. Je crois que
ça fait pas beaucoup d'emplois, ça.
Non, mais c'est les plus importants.
Je vous remercie tous les cinq d'avoir participé à cette émission. Technocritique du refus des machines à la contestation des technosciences, le livre de François Jarige.